Radio Prague, les informations.
Présidentielle 2013, les candidats Jiří Dienstbier et Miloš Zeman demandent le soutien des communistes. Lettre ouverte d'enseignants de Karlovy Vary contre un conseiller régional pour l'éducation issu du Parti communiste. Et puis l'alcool fort sera interdit sur les marchés Noël. Les candidats à la présidentielle 2013, Jiří Dienstbier et Miloš Zeman, ont rencontré vendredi la direction du Parti communiste afin de lui demander de les soutenir lors des élections à venir. Contrairement au Parti civique démocrate, ODS, et à Top 09, le Parti communiste n'a pas nominé de candidat propre à la présidentielle. La direction du parti a annoncé qu'elle allait prendre une semaine pour délibérer et décider quel candidat elle allait soutenir. La recommandation du parti pourrait influencer la décision des électeurs communistes lors du scrutin de janvier. Jiří Dienstbier estime qu'il est le seul candidat naturel pour les électeurs de gauche. Une partie des enseignants des écoles secondaires de la région de Karlovy Vary a fait savoir son mécontentement quant à la présence d'un membre du Parti communiste au poste de conseiller régional pour l'éducation. Suite aux négociations entre les deux partis vainqueurs des récentes élections régionales, le Parti communiste et le Parti social-démocrate, c'est Václav Sloup, ancien employé politique des gardes frontières, qui a été choisi pour assurer ce poste. Dans leur lettre ouverte, des enseignants de Cheb, Karlovy Vary et Sokolov disent respecter le résultat des élections, mais estiment que la présence d'un communiste à la tête de l'éducation n'est pas une bonne chose. Pas de grog ni de punch sur les marchés de Noël cette année en République tchèque. Les autorités ont annoncé qu'elles allaient interdire la vente d'alcool fort sur les marchés par des revendeurs sans licence. Cette prohibition concerne toutes les boissons contenant plus de 15% d'alcool. Dans le passé, la police passait outre ces pratiques courantes. Mais suite à la crise de l'alcool frelaté qui a causé 37 morts depuis le mois de septembre, les autorités ont décidé d'adopter une ligne plus sévère. La vente de boissons chaudes sera limitée au vin chaud et au thé. Près de 700 Tchèques, hommes et femmes, sont en attente d'un don d'organes. 552 d'entre eux ont besoin d'un rein, 64 d'un cœur, 64 encore d'un foie et 41 d'un poumon. Des chiffres rendus publics par Pavel Brzezowski, directeur du Centre de coordination des transplantations. Selon lui, il y a toujours un déficit de nouveaux organes et selon lui, la situation ne concerne pas seulement la République tchèque. Cette année, 600 personnes ont bénéficié d'un don d'organes en République tchèque. Plusieurs dizaines de monuments historiques à Prague s'ouvrent à partir de vendredi au public à l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription de la capitale tchèque sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi, les Pragois et les touristes peuvent visiter gratuitement, et ce jusqu'à dimanche, la chapelle de Bethléem, la synagogue Pinkas, l'église Saint-Nicolas de Malastrana, le couvent Naslovanek, mais également le théâtre national, le théâtre des États ou encore les locaux de la Chambre des députés. Étalés sur une superficie de 866 hectares, le centre historique de Prague est protégé par l'UNESCO depuis le 14 décembre 1992. Ce territoire protégé inclut également certaines parties des quartiers de Podoli, de Smichov, de Venerade ou encore de Holešovice. Et puis encore un mot d'art, une grande exposition du peintre tchèque František Kupka ouvre ses portes ce vendredi à la Galerie nationale de Prague intitulée Voyage vers la morphe. L'exposition retrace le cheminement du peintre vers l'art abstrait. Elle s'achèvera en mars 2013. On finit par un mot de météo. Samedi, jour de la fête des Iva, il fera clair sur une majeure partie du territoire. Les températures seront encore à la baisse et varieront entre 2 et moins 2 pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme. Restez avec nous.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à notre amie Anna pour son bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité en cette fin de semaine figure tout d'abord le refus du gouvernement tchèque de la résolution attribuant à la Palestine le statut d'État observateur à l'Assemblée générale des Nations unies. Seul pays membre de l'Union européenne à voter contre cette résolution. La République tchèque s'est ainsi alignée sur la position notamment des États-Unis et d'Israël. Pourquoi ? Élément d'explication dans quelques instants. Culture ensuite et cinéma, plus précisément avec la semaine du cinéma tchèque qui s'ouvrira lundi au château de Lunéville, c'est en Lorraine. C'est plus particulièrement la célèbre nouvelle vague des années 1960 qui sera mise à l'honneur la semaine prochaine. Et puis comme tous les 15 jours, le vendredi, la seconde partie de notre programme sera réservée à la rubrique Miroir de la société, avec cette fois un retour sur les conséquences qu'ont eues sur leur famille les exécutions des condamnés des célèbres et funestes procès de Prague en 1952. C'était il y a précisément 60 ans de cela et nous en parlerons dans une dizaine de minutes. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Jeudi 29 novembre, la Palestine est devenue État non membre permanent à l'ONU. Une large majorité des 138 États membres des Nations Unies, dont la France, ont soutenu la demande du président Mahmoud Abbas de rehausser le statut de la Palestine sur la scène internationale. Néanmoins, l'Union européenne n'a pas réussi à adopter une position commune sur la question. En effet, si une quarantaine de pays, dont une dizaine d'États européens, se sont abstenus lors du vote à New York, la République tchèque a, elle, été le seul pays du vieux continent à voter contre la résolution aux côtés d'Israël, son fidèle alliés ou encore des États-Unis. Explication de cette position tchèque, claire et prévisible avec Magdalena Rosinkova.
C'est un succès historique pour la Palestine, devenue État observateur de l'ONU, un statut identique à celui dont dispose le Vatican. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a demandé, non sans émotion, à l'Assemblée générale de délivrer l'acte de naissance d'un État palestinien, a réussi à obtenir le soutien de plus de deux tiers des pays représentés aux Nations Unies, alors qu'une majorité simple était suffisante pour que la nouvelle stature internationale de la Palestine soit adoptée. Pourtant, 41 pays ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de la résolution proposée par le chef de l'autorité palestinienne. Parmi les abstentionnistes, la Slovaquie, la Pologne, la Slovénie, la Bulgarie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. 9 États ont voté contre la demande palestinienne, dont Israël, les États-Unis, le Canada et la République tchèque. Avant le vote déjà, Prague avait fait part de son intention de s'opposer à la résolution. On écoute le porte-parole du ministère tchèque des Affaires étrangères, Vít Kolář.
Si la République tchèque a décidé de voter contre la proposition de la Palestine, c'est parce qu'elle craint que cette dernière puisse entraver le processus de paix. Nous ne pouvons pas accepter les démarches unilatérales qui ne conduisent pas à la solution de deux États indépendants et viables, à savoir la Palestine et Israël.
Rien de vraiment surprenant, étant donné que la République tchèque entretient des relations privilégiées avec Israël, dont l'histoire remonte à l'entre-deux-guerres. Pour le vice-ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur tchèque en Israël, Jiří Schneider, le oui de la majorité des membres de l'ONU en renforcement du statut de la Palestine est une sorte de formule magique, sans laquelle ces pays ne sauraient pas exprimer leur soutien à la Palestine, Jiří Schneider.
Nous aussi, nous accordons aux Palestiniens leur droit à un État indépendant, mais la présente résolution n'est pas une bonne voie pour atteindre cet objectif. Le problème est que, du côté palestinien, il n'y a pas qu'un seul représentant, le président Abbas. Il y a aussi une formation très importante, le Hamas, qui ne partage pas les principes que Mahmoud Abbas a soulignés dans son discours devant l'Assemblée générale. Le Hamas ne respecte pas Israël. Autrement dit, il n'est pas question d'une position univoque de la Palestine en tant qu'État qui reconnaît son voisin.
Si, dans le contexte du conflit israélo-palestinien, la diplomatie tchèque remet en cause l'utilité de l'attribution à la Palestine du statut d'État observateur à l'ONU, pour le quotidien tchèque Lidové Noviny, il s'agit d'une position constante, claire et courageuse au sein de l'Europe. Il n'en est pas ainsi pour le commentateur Milan Slezák, interrogé par la télévision tchèque, qui apprécie, je cite, ce geste hautement symbolique et important de l'Assemblée générale de l'ONU. On l'écoute.
Ce qui est très intéressant pour les Palestiniens et très frustrant pour les Israéliens, c'est ce soutien à la Palestine exprimé par autant d'États européens. Israël n'a plus beaucoup d'alliés en Europe, même s'il est surtout orienté vers les États-Unis. Il est conscient du fait que dans des périodes de crise, comme celle qu'il vient de vivre récemment, il est bien d'avoir un appui en Europe. Or, désormais, il ne peut plus vraiment compter sur le soutien de l'Union européenne.
Il n'empêche que le refus du nouveau statut renforcé de la Palestine rapproche deux autres alliés sur la scène politique, les États-Unis et la République tchèque, qui auront peut-être l'occasion de s'entretenir sur le sujet lundi prochain, lors de la visite de la secrétaire d'État américain Hillary Clinton à Prague.
On passe à la culture. Le château de Lunéville en Lorraine propose du 3 au 7 décembre, c'est-à-dire de lundi à vendredi prochain, une semaine consacrée au cinéma tchèque et plus particulièrement à la période de la nouvelle vague des années 1960. Détail du programme avec Virginie Béjot, qui est à l'origine du festival. Pardon. Virginie Béjot répondait aux questions d'Anna Kubishta.
Alors en fait, c'est un projet un peu de dernière minute, parce qu'au départ, on devait faire un mois consacré à Jiří Trnka, donc réalisateur de films d'animation, illustrateur, etc., qui est très connu ici en République tchèque et dans le monde entier. Et en fait, il y a eu des problèmes techniques, des problèmes aussi pour tout mettre en commun. Et donc, on a décidé quand même, malgré tout, de faire quelque chose qui se concentre sur la République tchèque.
Et, d'où cette idée, du coup, de cinéma
ouais.
tchèque.
Voilà. En fait, c'est parti à la base Didier Francfort, qui est professeur d'histoire à l'université de Nancy 2 et qui travaille pour le château de Lunéville, en fait, a rencontré les éditions Malavida.
Alors, les éditions Malavida, juste pour rappeler, en fait, c'est des éditions qui éditent et rééditent notamment des films tchèques. On avait interviewé justement un de ses fondateurs, enfin voilà, un de ses éditeurs. Ils rééditent en fait les films tchèques avec de nouvelles traductions, de nouveaux sous-titres.
Oui, ils sont basés à Paris et je crois qu'ils ont commencé à faire des rééditions de films tchèques et slovaques d'ailleurs en 2008, si je m'abuse. Et ils en ont presque une vingtaine maintenant, donc c'est vraiment une grande maison d'édition et c'est une institution française importante pour le cinéma tchèque et slovaque. Et
donc en fait c'est leur DVD que vous projetez alors.
Ouais, exactement. Et donc ça va être projeté dans la crypte du château qui a été rénové il y a pas longtemps puisque le château a brûlé il y a une dizaine d'années.
Et quel film tchèque présentez-vous pendant cette semaine du cinéma tchèque à Lunéville? C'est des films de la nouvelle vague?
Oui, presque essentiellement. En fait, moi, j'avais envie de montrer aussi des films qui sont moins connus, parce que Forman ou Menzel, c'est assez connu. Mais j'avais envie de montrer aussi des films de réalisateurs comme Yasni ou Niemetz, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, en fait, c'est moi qui ai proposé une programmation qui s'étend sur une semaine. Et donc, il va y avoir Wojtier Yasni, Yann Kadar, Le miroir aux alouettes, qui est un grand film sur un petit village slovaque pendant l'occupation. Il va y avoir aussi Éclairage intime d'Ivan Passer, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très drôle, très, très touchant. Et il y aura aussi à l'extérieur, dans la cour, ce qui va être vraiment joli, avec du vin chaud. On va passer sur grand écran le film de Viera Ritilova, Les petites marguerites.
On a aussi une journée spéciale Bohumil Hrabal. Ça peut paraître paradoxal dans une semaine du cinéma tchèque, mais en fait, ça l'est pas du tout, puisque de nombreux de ces films ont été adaptés en fait au cinéma.
Oui, donc en fait, on va faire une journée, je crois que c'est le jeudi, on va faire une journée consacrée à Bohumil Hrabal. Pourquoi ? Parce que c'est un écrivain qui est assez publié en France et je pense qu'il est vraiment apprécié et qui se retrouve beaucoup dans les films des années 60. Et donc, on va inviter les lycées et les collèges à venir assister à la projection. Et le soir, on va passer les courts-métrages « Les petites perles au fond de l'eau », donc qui réunissent plusieurs fauves et grands réalisateurs des années 60 de la nouvelle vague.
Et voilà, c'était donc Virginie Béjot à l'origine du festival de la semaine du cinéma tchèque au château de Lunéville en Lorraine. Rappelons que ce festival se tient du lundi 3 au vendredi 7 décembre prochain. Voilà, c'est la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Comme tous les 15 jours, le vendredi, on retrouve maintenant la rubrique Miroir de la société. En novembre 1952, Prague a été le théâtre de procès politiques considérés comme les plus grands procès monstres organisés dans les années 1950 dans l'Europe communiste. Le dernier supplément Orientace du quotidien Lidové Noviny a consacré 3 pages au rappel de ces procès à l'issue desquels 11 peines capitales et 3 peines de prison à vie ont été prononcées et surtout aux répercussions que ces verdicts ont eues sur les familles des condamnés. Une récente édition du journal a également publié un article évoquant comment la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 a touché une équipe de cyclistes tchécoslovaques.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
L'exécution a eu lieu le 3 décembre 1952 à 3 heures du matin dans la prison de Pankrac à Prague, une semaine après la fin des procès menés contre la direction du prétendu centre d'activités subversives et d'espionnage, avec à sa tête le secrétaire général du Parti communiste de l'époque, Rudolf Slansky. La potence avait été conçue de façon à ce que les condamnés agonisent de 4 à 9 minutes, la corde les étranglant au lieu de leur rompre le cou. Ce terrifiant spectacle a duré au total près de 3 heures.
C'est ainsi que l'historien Petr Zidek décrit les derniers moments de la vie des 11 hauts responsables communistes de l'époque. Il poursuit.
L'exécution a mis fin au martyre des condamnés qui avaient subi pendant de longs mois des tortures physiques et psychiques infligées lors des interrogatoires orchestrés par des conseillers soviétiques et à l'issue desquels les prévenus ont fait des aveux fictifs. Une expérience qui n'a toutefois pas empêché certains d'entre eux de rester fidèles à leur doctrine jusqu'au bout et de proclamer encore sous la potence « Vive le Parti communiste, vive l'Union soviétique ».
La lettre que tous les condamnés ont adressée à leurs familles et à leurs enfants n'ont trouvé leur destinataire qu'en 1963, en vertu des procès de réhabilitation. Petr Zidek écrit.
Tous les condamnés, à l'exception de 3 d'entre eux, avaient des enfants. Il y en avait une 20aine au total. D'âge adulte, écoliers ou tout petits, les circonstances de la mort de leur père leur ont causé des traumatismes profonds qui les ont marqués à vie.
Les persécutions des familles stigmatisées ont commencé avant même l'exécution des condamnés. Ainsi, l'épouse de Rudolf Slansky, qui avait été arrêtée en rentrant d'une soirée offerte par le premier ministre de l'époque, Antonin Zapotocki, a été détenue le même jour que son mari pour être internée avec ses enfants et d'autres membres de sa famille sous surveillance rigoureuse dans un endroit et dans des conditions minables. Le sort d'autres familles a été plus dramatique encore, dans la mesure où les enfants séparés de leur mère, arrêtés ou internés, ont été placés dans des foyers. Cela a été le cas, par exemple, des deux fils de Otto Schlink. L'un d'entre eux se souvient.
L'atmosphère qui nous entourait dans ces foyers était absolument hostile. Quand on a 7 ans, on ne doute pas. On ne pouvait pas imaginer à l'époque que le président Clement Gottwald puisse mentir. Alors finalement, nous étions fâchés contre notre père, nous le prenions pour un traître.
Certaines épouses également, de convictions communistes profondes, ont cru à la véracité des aveux forcés de leur mari, en suivant le déroulement des procès qui étaient retransmis quotidiennement en direct et largement diffusés par la radio. La situation a pourtant été difficile tant pour les familles convaincues que pour celles moins convaincues.
Ces familles vivaient sans cesse sous la surveillance de la police d'État qui contrôlait et fournissait des informations sur chacune de leurs démarches. Par ailleurs, beaucoup d'entre elles ont été contraintes de quitter leur domicile pour aller s'installer dans des espaces serrés ou encore déménager dans des endroits très reculés du pays. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'elles ont pu retourner à Prague.
En conclusion, l'article donne la parole à plusieurs descendants des 11 hommes exécutés suite au procès de 1952. Tous affirment être traumatisés à jamais par cet événement et ressentir de la culpabilité. Ce sentiment concerne notamment ceux qui ont cru à l'époque que leur père avait été condamné et exécuté de plein droit et n'ont appris la vérité que bien plus tard.
Certains d'entre eux vivent aujourd'hui à l'Occident et ont décrit leur expérience traumatisante sous forme littéraire. C'est le cas du fils de Rudolf Margolius, établi depuis les années 1960 en Grande-Bretagne. Comme il le remarque dans la préface de son ouvrage « Prague derrière le miroir », sa vie a éclaté en 1952 et ne s'est jamais tout à fait recomposée.
Dans un entretien accordé au journal Lidové Noviny, il s'est confié.
Ce livre m'a aidé à mettre de l'ordre dans ma tête. De notre côté, je dois dire que la mort de mon père a été un coup très dur. Perdre un membre si proche de sa famille à un tel âge, je n'avais que 5 ans, est particulièrement traumatisant. J'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir vivre avec cela. Déjà à l'époque où je fréquentais une crèche, je demeurais isolé des autres enfants. Pour pouvoir commencer normalement ma scolarité, j'ai dû changer de nom.
La fille d'un autre condamné, Karel Schwab, déclare elle aussi être traumatisée et éprouver de la peine pour son père et pour les gens de sa génération qui ont cru qu'il fallait imposer leurs idéaux par la force. Un sentiment que partage la fille d'un autre dirigeant communiste exécuté, Otto Fischl, qui remarque toutefois qu'il y a aujourd'hui encore à Prague des gens qui étaient eux aussi communistes et que cela n'accable pas.
Dans son article consacré au procès de Prague, depuis lequel 50 ans se sont écoulés ces derniers jours, l'historien Petr Zidek observe que leur protagoniste demeure aujourd'hui un peu dans l'ombre de la mémoire des gens qui ont été persécutés par le régime communiste puisqu'ils ont eu le courage de s'y opposer. Est-ce parce qu'il s'agissait de cadres du Parti communiste qui avaient précédemment prôné avec beaucoup de ferveur des lendemains heureux et qui ont fini par être pris dans un engrenage auquel ils avaient contribué à la mise en place.
Les pages sportives de la presse ont récemment évoqué une des éditions de la fameuse course cycliste appelée Course de la paix, celle qui s'est tenue 10 jours après l'accident nucléaire de Tchernobyl, survenu le 26 avril 1986. Son départ avait été donné dans la ville de Kiev, en Ukraine, à une centaine de kilomètres du lieu de la catastrophe. Seulement 11 équipes de 6 coureurs, au lieu d'une vingtaine l'année précédente, y étaient inscrites. L'équipe tchécoslovaque a répondu présente. L'édition de samedi dernier du journal Lidové noviny rappelle certains aspects de cet événement.
Les autorités tchécoslovaques prétendaient que cet accident n'était pas grave et qu'il n'y avait aucun risque. Mais les gens qui pouvaient écouter les radios étrangères ne les croyaient pas. En dépit de certaines craintes, les cyclistes tchécoslovaques, qui ne disposaient que d'informations contradictoires, se sont rendus à Kiev, car leur éventuel forfait aurait signifié menacer la suite de leur carrière sportive.
Le cycliste Vladimir Kozarek, qui a été le seul à refuser sous prétexte d'ennui de santé, a été exclu pour un an de la sélection nationale. Josef Regetz, qui a remporté la première étape à Kiev, a lui été atteint 19 ans plus tard d'un cancer du rein, il explique.
Aucun médecin n'a confirmé ni exclu un rapport entre ma maladie et ma présence à Kiev. Mais moi, j'en suis certain. À l'époque, j'ai voulu tout simplement y aller. Je ne réfléchissais pas beaucoup au contexte. Et j'ai pourtant assez vite compris que c'était le gouvernement tchécoslovaque de l'époque qui tenait à ce que nous y allions. Il va de soi que la course de la paix était en grande partie une affaire idéologique et de ce fait, notre absence était impensable.
En 2010, Josef Regetz a été élu à la Chambre haute du Parlement.
Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Ahoy.